enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Je suis ce que la parole de Dieu dit à mon sujet. Je possède tout ce qu'elle affirme. Je peux tout ce qu'elle déclare. Aujourd'hui, je laisse la parole de Dieu m'enseigner. Mon cœur est ouvert et réceptif. Son clair est réceptif et je serai transformé. Excusez-moi. Je suis prêt à recevoir l'incorruptible, l'indestructible, permanente semence de la parole de Dieu. Je ne serai plus le même, non jamais plus, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez cela?
Amen.
Est-ce que vous êtes prêts à entendre Dieu ce matin?
Alléluia.
Amen. Alléluia. Donc, nous rentrons de la Suisse. Nous étions en Suisse pendant une semaine et nous avons fêté nos 25 ans de mariage pendant que nous étions en Suisse. Donc, le 4 juillet. Donc, comme la plupart de vous le savent bien, Laura est américaine, je suis britannique. Donc, nous avons décidé de nous marier le 4 juillet. Amen.
Amen.
Vous savez ce que c'est le 4 juillet? Donc, par tous les États-Unis, maintenant, depuis notre mariage, il y a des feux d'artifice, oui, pour célébrer notre mariage. Qui croit cela? Non. C'est comme le 14 juillet ici, oui, c'est le jour d'indépendance, donc, de les États-Unis, de l'Angleterre. Donc, nous avons appelé ça notre jour d'interdépendance. Mais vraiment, nous sommes dépendants toujours sur le Seigneur. Si vous avez votre Bible tournée, en Colossiens chapitre 3, et je veux que nous regardions un verset, et nous allons continuer à partager, comme nous avons fait il y a 2 semaines, c'est quelque chose que le Seigneur a mis dans notre cœur pour cet été, de partager tout simplement avec vous. Pourquoi? Parce qu'après avoir marché avec le Seigneur, moi depuis 34 ans, Laura depuis 30 ans, Marie depuis 27 ans, nous avons appris des choses.
Amen.
Et nous vivons les choses parmi nous, et quelquefois nous réalisons que vous ne voyez pas ça. Et souvent, la plupart du temps, quand nous ne sommes pas ici, quand nous sommes en train de prêcher ailleurs, Laura et moi, nous prêchons ensemble. Et on dit, c'est dommage, l'Église, certains d'entre vous dans l'Église, ne nous voient jamais prêcher ensemble. Donc, Colossiens,
Amen.
Colossiens chapitre 3, on va lire 2 versets, verset 17 et après verset 23. Il dit, vous êtes là, Colossiens 3, 17, oui. Et quoi que vous fassiez, dit quoi que je fais.
Quoi que je
fais. Ouais. Quoi que je fasse, c'est ça? Quoi que je fasse.
Quoi que je fasse.
Ouais. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Ça, c'est une bonne conseil, n'est-ce pas? Oh, oui. Si vous ne pouvez pas le faire à la gloire de Dieu, vous ne devez pas être en train de le faire. Si vous ne pouvez...
Mais j'ai envie de la faire!
Oui?
Oui! Alors, il faut que je fasse ce que je m'échappe, n'est-ce pas?
We can't hear you.
Mais c'est ce que le monde pense.
We can't hear you.
I don't think my microphone's on. Ça aide quand c'est branché. Mm-hmm. Mais c'est vrai, beaucoup de monde veut faire ce qui leur chante, ce qui leur fait plaisir. Mes amis, nous ne sommes pas le nôtre. Si nous appartenons au Seigneur,
Amen.
Notre vie a été rachetée en grand prix. Et c'est pour ça, il ne faut pas faire ce qui me plaît.
Mm-hmm.
Parce que peut-être ça me plaît de manger tout ce qui est dans le frigo.
Est-ce que ça va nous faire du bien? Peut-être il me
ou
plaît.
Ou de boire tous les bouteilles qui sont là-haut.
Ça, c'est dangereux,
oh
n'est-ce
là
pas?
Là.
Ou de ne pas se lever et aller au travail.
Ou utilise le carte de crédit et achète toutes les choses qui sont en solde.
Et il se peut que ça vous plaît, mais est-ce que c'est sage de le faire?
Non, pas pour le compte en banque.
Non. Oui. Verset 23. Il dit, tout ce que vous faites, dit tout ce que je fais.
Tout ce que je fais.
Oui. Faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Écoutez-moi. Nous ne vivons pas pour aujourd'hui.
Non.
Et nous vivons même pas pour demain. Nous vivons pour l'éternité. Et nous vivons, actuellement, nous vivons dans une société qui est sur le « je le vois, je le veux ». Les autres sont en train de le faire, donc pourquoi pas moi? Vous êtes d'accord? Et à cause de ça, il veut la récompense tout de suite, maintenant.
Mais quand? Une minute plus tard.
Un repas congelé dans le micro-ondes, est-ce bon? Ça remplit l'estomac pendant quelques moments, mais on ne peut pas dire que c'est vraiment un bon repas, n'est-ce pas? Un bon repas, ça prend du temps, ça prend de l'amour, n'est-ce pas? C'est pareil dans une vie. Beaucoup de gens nous voient mariés heureux et nous sommes des jeunes mariés. Pierre, Huguette, vous avez combien d'années de mariage?
58 et demi.
58 et demi. Il faut savoir qu'il a épousé Huguette au berceau.
C'est un début.
On a que 27 ans, ils ont 58 ans, mais nous avons appris des choses et une vie de couple, ça prend du temps. Ça exige d'efforts de l'un et l'autre. Une vie de famille...
Et ça veut dire qu'il faut savoir bagarrer.
Se bagarrer.
Parce que vous savez, d'avoir une vie de couple, les choses, on n'est pas forcément, souvent loin de là, être toujours en accord. Mais la plupart des gens n'ont jamais appris comment bagarrer correctement. Comment avoir une bonne dispute.
Est-ce possible d'avoir une bonne dispute? Ou est-ce qu'on a besoin de donner place au diable parce que nous avons différence d'opinion?
Mais John, nous sommes chrétiens. Et les chrétiens ne sont jamais en colère. Et ils sont toujours gentils. Ils disent oui à tout. Ils sont des chrétiens, n'est-ce pas? Non, je veux dire des chrétiens.
Oui, des chrétiens.
Oui. Souvent, les gens pensent qu'on est des chrétiens. Vous voyez des différences? Parce qu'on est chrétien, ça ne dit pas qu'on doit dire oui à tout ce que les gens nous demandent à faire.
Et nous ne sommes pas d'accord.
Et dans la vie de couple, on n'est pas toujours
donc,
d'accord.
Peut-être vous pensez que vous allez, ceux qui ne sont pas mariés, vous allez épouser quelqu'un qui pense exactement comme vous. Mais moi, ça va être vraiment triste chez vous. Ce qui est merveilleux dans le couple, nous venons de deux cultures totalement différentes, de deux langues
tout à fait
différentes, de deux arrière-plans religieux tout à fait différents. C'est génial. Et
le mien est correct.
Bien sûr. Et comme un pasteur a dit à un couple qui sont venus et demandé qui voulait marier, il dit, je ne peux pas vous marier. Il dit, pourquoi? Parce que vous êtes 100% incompatibles. Nous sommes 100% incompatibles. Il dit, parce que toi, tu es une femme et lui, c'est un homme. Et dit, le jour que vous comprenez qu'un homme et une femme sont 100% incompatibles, vous pouvez vous marier. Et il avait raison, parce que si nous croyons qu'une femme est comme un homme et un homme est comme une femme, ça c'est le problème de notre société aussi aujourd'hui. Les hommes veulent être des femmes et les femmes veulent être des hommes. Les hommes, écoutez-moi bien, soyez des hommes. Soyez des
vrais. Macho, ouvrez une porte pour une femme. Payez pour le repas. Ne sois pas radin.
Tu mêles un petit peu de tour là. Les femmes, soyez des femmes. Soyez belles. On veut pas que vous soyez des hommes à côté de nous. Moi, je veux une femme mignonne. Je veux une femme tout douce. Mais nous sommes différents et nous avons besoin d'accepter ces différences, apprécier ces besoins, et ça va prendre du temps pour pouvoir apprendre à vivre ensemble.
Mais excuse-moi, quand vous êtes macho, ne donne pas un clac à votre femme. Elle va avoir un bleu. Ça va faire un sacré bleu. Il faut être gentil, tout doux. D'accord. Mais nous, on peut répondre, tu vois. Hey, tu sais, on leur masse le dos bien comme il faut.
Fort, n'est-ce pas?
Ça le convient.
Mais écoutez-moi bien, parce qu'on a un problème aujourd'hui, que beaucoup de célibataires veulent se marier, mais ils veulent remplacer, vous voyez, l'autre sexe. Ça veut dire, on a beaucoup de femmes qui sont machos, qui s'habille, se coiffe, vit comme des hommes et veut trouver un homme. Mais un homme ne veut pas un autre homme. Il veut une femme. Et moi, je vous dis, les hommes soient des hommes, les femmes soient des femmes et apprécions la différence. Donc, dans le couple, nous avons eu énormément de différences. Et Laura a une aussi forte personnalité que moi. Je ne sais pas si vous avez remarqué.
Peut-être plus fort.
Je sais pas, parce que moi...
Je fais plus de bruit, de toute façon, c'est certain.
Moi, je suis têtu comme une âne, moi, ouais.
Et moi, je cède pas non plus.
Mais c'est génial, parce que...
Mais on sait prier.
Hallelujah.
Hallelujah. Et Dieu sait régler les choses.
Les couples ici, est-ce que vous savez prier? Parce que, vous savez, on peut être en plein de disputes, et on a besoin de dire, est-ce qu'on laisse le diable entrer? Parce qu'il faut laisser le diable dehors. On peut avoir une différence d'opinion. On peut même aussi la voir un peu. Ça, c'est pas un problème. Mais il ne faut pas laisser le diable dehors. Comment garder le diable dehors? Première chose, parler sur le sujet en question. Les disputes deviennent des troisième guerre mondiale quand on fait venir le passé. Tu as dit, je m'en rappelle que, oui, il y a 20
Et
ans.
Et tu es exactement comme ton père.
Aïe, aïe, aïe.
Oh, quand tu commences, là, on commence.
Là, c'est fini parce qu'après, ouais. Je dis qu'elle est comme sa mère.
Et ouais. Là, tu sais, aïe, aïe, aïe. Et si je raconte à ma mère ce que tu viens de me faire?
Oh là là. Donc, deux règles. Vous ne parlez pas de passé. Et vous ne laissez pas entrer la famille. Parce que vous ne pouvez pas avoir une dispute saine en parlant de la famille et en parlant du passé. Il faut traiter le sujet en question. Et il y a un moment pour discuter sur les choses et il y a un moment pour ne pas discuter. Quand on est fatigué, quand on ne peut plus, c'est pas le moment de discuter, mais il faut prendre rendez-vous. Et les gens sont étonnés. Oui, on prend rendez-vous pour disputer. Parce qu'on dispute sainement. Amen. Le passé est terminé. La famille n'est pas invitée. Ça va vous aider, vous pensez qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter, mais prochaine fois...
Et la famille n'en sont pas informées non plus.
Ah oui. Parce que vous parlez avec votre famille, de disputes que vous avez eues entre vous, eux, ils n'oublient jamais. Vous pouvez vous embrasser et faire la paix, et tout va bien, mais la famille, wow! C'est vrai ou c'est pas vrai? Amen. Et ça va être aussi bien pour les célibataires que pour les mariés. Amen. Il faut parler du sujet en question, il faut marcher dans... Tout ce que vous faites, faites-le. Pour le Seigneur et non pas pour les hommes. Laisse-moi vous raconter quelque chose.
Avant, bip! OK. Vous savez, nous avons le droit de se mettre en colère. Beaucoup de gens...
Attention, ils croient? Vous croyez? Vous avez le droit de vous mettre en colère?
Non.
Jamais?
Non, non.
Jamais? Même quand le diable vous vole quelque chose?
Ah!
Ah! Écoutez-moi bien.
Et Jésus, quand il était dans le temple, il flagellait les gens, il les tapait.
Non.
Alors, il passait là?
Il flagelait pas les gens, qu'est-ce que tu racontes?
Il flagelait les gens qui savaient le table, ils vont faire sur le table.
Oui, mais il a tapé. Vous avez, montre-moi ça dans la Bible. Oh là là, il raconte même. Faut pas écouter
c'est
les paniers.
Vous lui dites,
montre-moi
c'est
ça.
Dans le Bible,
non. Oh, dans le Bible, on dit absolument pas. Il faut qu'on apprenne à être en colère avec le diable.
Oui.
Mais ne vous mettez pas en colère avec Dieu. Souvent, on inverse les rôles. Pourquoi le bon Dieu m'a fait cela? Ne l'appelle pas bon s'il vous a fait un malheur. Mais nulle part dans la Bible, on voit Dieu en train de faire les malheurs. C'est le diable. Et il faut traiter le diable, le mauvais diable qu'il est. Et il faut ordonner au diable de laisser tes affaires, de laisser ta famille,
Amen.
De laisser tes finances. Mm-hmm. Oui, ne vous mettez jamais en colère après Dieu.
Mm-hmm.
Parce qu'après, quand vous avez besoin de prier, qu'est-ce qui va se passer? Vous tournez votre dos sur Dieu. Faut pas le faire. Mettez-vous en colère avec le diable.
Oui, la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère.
Mm-hmm.
Ça veut dire qu'on a le droit d'avoir des forts sentiments qu'on n'est pas du tout contente.
Ou content.
Avec certaines situations. Et il faut l'exprimer. Parce que sinon, ça vous range à l'intérieur. Mm-hmm. Parce que vous êtes tout coup, mais vous n'osez pas le dire. Et alors, ce qui arrive à faire, vous mettez les choses sur le tapis, et finalement, le tapis devient tellement soulevé qu'il y a des bosses. Et vous allez trébucher sur ces bosses dans le tapis. Oui.
Je ne sais pas ce que vous avez appris de votre famille. Parce que nous avons besoin d'apprendre la famille, n'est-ce
pas? Dans ma famille, si on était en colère, on parlait très fort.
Quand je suis allé dans la famille de Laura pour la première fois, donc Laura est l'aînée de 7 enfants. Il y a Laura, 3 garçons et après 3 filles. Et l'aînée des garçons était donc au Japon, dans le militaire, où il a rencontré le Seigneur. Mais il y avait donc encore 5 enfants à la maison. Ok? J'avais jamais entendu autant de bruit de toute ma vie. Que dans la famille de Laura. Si vous pensez qu'elle est forte, il faut entendre les deux, la famille ensemble.
Oh, on est épatant. On a des qualités remarquables.
Et ma famille, c'est une famille bien traditionnelle, britannique. On est très, très calme. Une personne parle à la fois et les autres. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer la différence. Oui. Donc, j'ai eu besoin d'apprendre à parler un peu plus fort et Laura avait besoin, elle a encore toujours besoin de. Je t'aime.
Je t'aime.
Oui. Mais je parlais pas de nos familles. Mes grands-parents étaient mariés pendant 51 ans et ils s'aimaient d'un amour exceptionnel. Et ils se sont donnés l'un à l'autre. Mais ils ont oublié le monde. Et j'ai appris une leçon de mes grands-parents. Parce qu'ils ont, ils ont vécu l'un pour l'autre. J'allais vous montrer un plan, peut-être je le ferai la semaine prochaine. Mais j'ai un plan de la France, en deux parties. Et mes grands-parents ont marqué toutes les routes qu'ils avaient prises en France. Et du nord au sud, de l'est à l'ouest, il n'y a pas une route qui n'est pas marquée, sauf qu'ils n'ont jamais pris une autoroute. D'accord? Mon grand-père est décédé en, je crois que c'était 78, ma grand-mère est décédée en 84, mon grand-père a 87 ans, ma grand-mère a 88 ans. Quand nous sommes venus en France, ma grand-mère n'a rien dit avant, Laure et ma grand-mère, vous ne pouvez pas imaginer deux personnes plus différentes. Ils sont devenus les meilleurs amis. Et ma grand-mère a dit quelque chose. Oui, quand nous sommes venus pour nous installer en France, elle a dit, va faire ce que nous aurons dû faire. J'étais étonné parce que quand nous étions sur notre lune de miel, 3 ans avant, nous sommes venus en France, on est venus pour la première fois en France pendant notre lune de miel. Et c'est un petit conseil quand vous vous mariez, c'est une bonne idée d'aller dans un pays où ni l'un ni l'autre peut parler bien la langue, comme ça vous avez besoin de parler entre vous. La conversation, c'est vraiment, tu vois, le ciment, oui, de la vie du couple, de parler, de s'exprimer.
Quelquefois, on ne sort pas au restaurant parce que j'en dis, écoute, c'est moi qui paye le note, tu parles avec moi. Parce que souvent, je parle avec tous les autres tables autour et les serveurs trop.
Pendant notre lune de miel, le Seigneur était en train de me travailler. J'avais déjà reçu l'appel pour la France. Laure l'a reçu en venant en France.
Le premier jour quand nous sommes venus en France, c'était comme j'étais chez moi. Pour la première fois dans toute ma vie. J'avais beaucoup, beaucoup voyagé, mais je savais que j'étais chez moi. Mm. Et ça me faisait un plaisir énorme d'être rentrée au berceau. Et pour vous qui êtes en haute mer, quand vous rentrez dans votre territoire, vous savez, il y a quelque chose, même que vous avez choisi et décidé d'habiter en France, il y a quelque chose quand tu rentres dans ton pays. Il y a une joie qui est là. Mais pour moi, quand je suis venue en France, c'était, je suis chez moi. Mmh. Et les gens m'ont demandé, ils ont dit, depuis toutes ces années que j'habite en France, ils disent, ah, mais ça t'a jamais langui les Américains. Je dis non, je suis toujours très américaine et fière d'être. Mais j'habite en France. Mmh. Et je suis fière d'habiter ici et de laver mes enfants ici.
Donc, nous avons reçu cet appel et j'ai réalisé que j'ai risqué de faire pareil que mon grand-père. Ça veut dire d'aimer Laura, oui, et de me donner totalement à elle et vivre pour elle. Et j'avais regardé...
Et ça me convenait bien.
J'avais vu la vie de mes grands-parents. Ma grand-mère n'avait pas fait cette déclaration que 3 ans plus tard. Et un jour, pendant notre lune du miel, oui, j'ai dit à Laura, « Laura, je ne vais pas vivre pour toi. » Elle pensait que...
J'ai cingloté. Oh là là. Oh, j'ai pleuré comme Madeleine.
Et j'ai dit, écoute, elle dit, je veux que nous vivions...
Je croyais qu'il ne voulait plus de moi. Oh, aïe, aïe, aïe. Je crois qu'on était à Cap-Antibes quand tu m'as dit ça.
Je ne me rappelle pas exactement.
Oh, c'était atroce. Oh, c'était une moche journée là. Ouais.
Mais j'ai dit, je veux que nous vivions ensemble pour Dieu.
Et peut-être tu dis, ah là, tu es en train de diviser un cheveu, comme on dit aux États-Unis. Mais c'est un tout petit différent de réglage. J'avais besoin de l'amour de John. Et j'ai toujours besoin de son amour.
J'ai besoin de son amour.
Et quand il est vexé avec moi, oh, je suis malheureux et paumé. Et c'est très triste. C'est vraiment triste dans ma vie quand John est vexé avec moi. Mais ça ne dit pas que je ne lui tiens pas tête. Mais ça m'a fait mal quand même. Mais quand il m'a dit ça, ça m'a vraiment fait un coup. C'était comme quelqu'un a pris un gros, tu sais, un sable. C'était même pas un poignet. C'était un sable. Et moi, ils étaient en train de miaulement mon cœur. Oh Dieu, il m'a plu.
Mais c'était pas de tout ce que je voulais dire. Non. Je dis, il faut que nous vivons ensemble pour Dieu. Je veux vous poser une question. Vous vivez pour qui? Parce que moi, je rencontre beaucoup de chrétiens qui ont accepté Jésus comme leur sauveur. Ils croient que Jésus est mort sur la croix du calvaire pour eux, qu'il a payé pour le péché. Ils croient qu'il était enseveli 3 jours et qu'il est ressuscité. Et ils croient qu'ils ont la vie éternelle, mais ils ne veulent pas faire de Jésus le Seigneur de leur vie. Écoutez-moi un instant.
C'est pas une assurance. Tu sais, quelquefois avec les assurances, on prend seulement un parti. Oui. Contre le feu, contre le vol, contre ceci. Non, c'est une assurance pour l'éternité.
Quand on donne notre vie entièrement au Seigneur et on dit « Jésus, tu es le Seigneur de ma vie, dirige ma vie », nous avons la possibilité de vivre pleinement notre vie. Parce que quand on prend Jésus comme sauveur seulement, et après on dit, non Seigneur, je veux pas ceci, non Seigneur, je veux pas cela, non, je refuse de faire cela, nous sommes en train de dire, oui, tu n'es pas le Seigneur de ma vie, mais ce que nous ne réalisons pas, c'est qu'il désire le meilleur pour nous.
Amen.
Dis ça avec moi, Dieu désire le meilleur pour moi.
Dieu désire le meilleur pour moi.
Il faut que vous vous inculquiez avec cette pensée. Dieu a un projet pour ta vie qui va dépasser tout ce que vous aurez jamais pu imaginer. Et quand nous retenons une partie de notre vie, et j'allais retenir une partie de ma vie, j'étais en train de penser, tu vois, moi et Laura, c'est notre vie de couple. Je vais vivre pour elle, elle va vivre pour moi, et j'aurais fait l'erreur de mes grands-parents.
Et ce ne disait pas qu'on ne partageait pas notre foi avec les gens, ou qu'on n'emmenait pas les gens au salut et tout le reste, mais c'était un petit réglage.
Oui, mais ça fait une grande différence dans notre vie, parce que quand on a une décision à prendre, c'est d'abord qu'est-ce que Dieu veut.
Amen.
Ce n'est pas qu'est-ce que nous voulons, parce que quelque chose, ça nous aurait fait plaisir. Laura m'a rappelé, j'avais oublié, mais quand nous étions rentrés de nos études aux États-Unis, en 84, on a passé 3 mois en Angleterre, on s'est engagé dans l'église. Vous savez ce qu'il nous a donné à faire, donc il faut comprendre. On était tous les deux diplômés de la faculté, on avait fait 2 ans d'école biblique, oui, nous avons un appel pour la France.
Aussi, tu étais le manager d'un restaurant de glace.
Oui, j'étais manager.
J'étais le meilleur serveur sur les 5
restaurants.
Sur les 5 restaurants. J'ai formé les autres serveurs. Tu vois, on gagnait très bien notre vie.
Et on a laissé tout cela parce qu'ils étaient en train de nous faire toutes sortes de propositions pour rester aux États-Unis, des salaires et tout ça. Et quand je leur ai dit non, nous devons partir en France, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils m'ont viré le lendemain. Et elle, dernier mois aux États-Unis, sans salaire, rien de tout, c'était... OK, Seigneur, nous croyons qu'on a pris la bonne décision. Et nous sommes rentrés en Angleterre et l'église, oui, donc, qui est une église baptiste charismatique, nous a dit, voilà ce que vous pouvez faire, vous pouvez nettoyer l'église pendant que vous êtes ici. 3 mois, c'était ce qui nous a donné à faire.
Et chaque semaine, on devait faire un compte rendu de ce qu'on allait faire avec notre temps.
Non, le compte rendu de ce que nous avons fait. Une provision.
De ce qu'on allait faire, emploi de temps pour la semaine, et la semaine après, un compte rendu pour comment on avait dépensé notre temps.
Donc, c'était très intéressant. Et l'église était, je pense, 3-4 fois plus grande que celui-ci. Et on avait la joie de nettoyer tout le bâtiment pendant ces 3 mois. C'était génial. Et quelque part en moi, j'étais fâché. Mais aujourd'hui, 24 ans plus tard, je dis, ils avaient vraiment raison. Parce que tu sais, c'est très facile qu'on apprend les choses d'avoir la grosse tête. Mais aussi, nous ne sommes pas ici pour nous. C'était pas, moi, j'ai pensé qu'ils allaient me donner la chaire, que je pouvais prêcher. Oui. J'ai prêché quelques années plus tard, quand nous sommes retournés aux États-Unis, en Angleterre, mais j'ai pas prêché dans l'église. Oui. Et c'était très bien. Moi, je vous pose une question. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous êtes un de ces chrétiens qui dit, je fais ce que je crois que le Seigneur me demande faire? Ou est-ce que vous êtes en train de dire, moi, je fais ce qu'il y a besoin d'être fait? C'est dans le couple, c'est comme ça. Je ne fais pas ce que je veux faire dans la maison. Nous avons chacun besoin de faire ce qu'il y a. Quelqu'un a besoin de sortir les ordures, n'est-ce pas? Quelqu'un a besoin de faire la lessive. Quelqu'un a besoin de laver les vitres. Quelqu'un a besoin d'aspirer, passer l'aspirateur. Ça, c'est mon job à la maison. J'aime cette puissance, voir toute cette poussière partir. Mais j'aime pas laver par terre, donc ça, c'est son job. Et on partage les tâches. Oui? Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne veulent rien faire de ménage chez eux, mais ils veulent que leur femme travaille. Il faut choisir ce que vous voulez. Si votre femme travaille, il faut que vous partagez les tâches ou vous embauchez une femme de ménage. Quelqu'un a déjà sa foi en marche pour une femme de ménage. C'est très bien. Mais dans l'église, c'est comme ça. Aujourd'hui, ouais, moi, je parle de charismaniaques. Des gens qui entendent tellement de Dieu qu'ils ne peuvent absolument rien faire parce qu'ils n'ont pas un appel pour le faire.
On a cru que Dieu était schizophrénique. Parce qu'un jour, Dieu dit ceci, le lendemain, il dit autre chose, le lendemain, il dit autre chose, et quelquefois, entre-temps, il change d'avis aussi.
Est-ce que Dieu change d'avis? Une chose que Dieu a dit, il a dit, je bâtirai mon église et les portes des séjours de monde ne prendront point contre elle. Et nous disons, mais je ne ressens pas un appel pour ça, j'ai pas ça dans le cœur. Mais qu'est-ce que vous avez dans le cœur? Moi, Jésus dans mon cœur. J'aime ma femme, même quand j'ai pas les sentiments pour elle. Vous me suivez? Vous m'entendez? Il y a des moments où je me lève fatigué, il y a beaucoup de choses, tu sais, on a tous le stress de la vie. Et tu sais, je peux pas dire que j'ai une immense passion pour ma femme. Mais j'ai pris une décision d'aimer cette femme.
Amen.
Elle va être à mes côtés, oui, si vous revenez en 30 ans, elle va être encore là.
Amen.
Oui. Et vous allez voir qu'on s'aime encore plus. Oui. D'ici 30 ans.
Amen.
Parce que ce n'est pas une émotion, c'est une décision. Et vous savez, j'aime l'Église comme cela. Et vous devez aimer l'Église comme ça. Et non pas, ah, j'ai pas envie, j'ai pas ça dans le cœur. Mais qu'est-ce qu'il y a à faire? Travaillons ensemble. Amen. Vous me suivez? Parce qu'il dit, je relis, oui, Colossiens, donc j'ai perdu ma place, 3, 23, il dit, tout ce que vous faites, faites le bon cœur pour le, comme pour le Seigneur. Combien de vous en travail où vous faites beaucoup de choses qui ne vous plaisent pas? Oui? Non? On a beaucoup de choses qu'on fait dans le travail qui ne nous plaisent pas. Vous êtes d'accord? Les étudiants, il y a des cours qu'il faut suivre, n'est-ce pas? Et on n'a pas envie. Mais il faut le faire, n'est-ce pas? Et il faut réussir l'examen aussi, n'est-ce pas? Oui ou non? La vie n'est pas faite de « j'ai envie de faire ça ». C'est comme, Rebecca a changé un petit peu, mais quand elle était petite, on l'appelait Mademoiselle Chocolat. Et si on lui demandait ce qu'elle voulait manger, elle voulait un hors d'œuvre de chocolat, un plat de résistance au chocolat, fromage au chocolat, oui, du chocolat pour le dessert et une boisson au chocolat.
Elle mangeait un gros pot de Nutella toute seule chaque semaine. Elle était gourmande de chocolat.
Mais on ne pouvait pas la laisser faire.
Mais elle n'était pas grosse.
Écoutez, ceux qui ont des enfants, s'il vous plaît. Oui, vous avez vu les gens dans le grand surface, ils tombent vers leur enfant de 3 ans et disent, qu'est-ce que tu veux manger? Mais qu'est-ce qu'il veut manger? Des frites. Il veut manger une glace. Il veut manger des bonbons. Tu ne peux pas demander à un enfant de 3 ans qu'est-ce qu'il veut manger, vous êtes d'accord? Oui? Et après, on demande pourquoi il fait des crises. Il fait des crises parce qu'ils n'ont pas mangé leurs légumes. Il fait des crises parce qu'il dort pas. Oui, mais je couche l'enfant quand il est fatigué. Mais il était fatigué à 6 heures, mais vous étiez trop stupide. Excusez-moi. Vous étiez trop bête. Non, non. Parce que les bêtes sont pas bêtes. Oui.
Vous n'êtes pas... Vous n'étiez pas assez sensible.
Ah oui. Politiquement correct. Vous n'étiez pas assez sensible pour savoir que cet enfant a besoin de 12 heures de sommeil. Un enfant a besoin de coucher. A besoin de dormir. C'est pourquoi ils tombent malades tout le temps. Parce qu'ils ont besoin d'être nourris correctement, n'est-ce pas? Et un enfant, il va aller au soleil, il va se brûler. On a besoin de mettre un petit capuchon, oui, un chapeau, oui. On a besoin de mettre une crème sur lui. Il va pas penser à cela. Vous êtes d'accord? Nous faisons beaucoup de choses dans la vie qui nous plaisent pas, mais combien on est content quand le chèque du salaire arrive à la fin du mois. C'est vrai ou c'est pas vrai? Amen. Et si vous dites chaque fois que votre patron vous demande de faire quelque chose qu'il vous n'aime pas, « Oh, j'aime pas faire ça. » Oui, le patron il va dire après un moment, « J'aime pas vous payer votre salaire. » Il y a une porte là. Je vous paye pas pour ce que vous aimez faire. Je vais vous payer pour travailler. C'est ça. Et dans la vie du couple, c'est comme ça aussi. Vous me suivez? Et moi, je dis, les célibataires, écoutez bien. Certains d'entre vous, oui, vous êtes trop égoïstes. On ne peut pas se marier si on veut ce qui nous chante. Nous avons réalisé, et ça nous a pris du temps, mais ça marche bien quand je fais ce qui plaît à ma femme et quand elle fait ce qui plaît à moi. Ça marche bien quand je fais ce qui aide ma femme et quand elle fait ce qui m'aide. Nous avons un concours dans notre couple qui peut aimer l'autre le plus.
Moi, je crois que je gagne toujours.
Je croyais que tu gagnais tout le temps.
Je te laisse gagner.
Ça rigole chez nous. Est-ce que ça rigole chez vous? Écoutez-moi bien. Si ça ne se rigole pas chez vous, vous êtes le problème. Parce que la vie est belle. Jésus nous a donné sa vie.
Amen.
Et oh, il y a des moments de tristesse, c'est vrai. Il y a des événements qui nous attristent. Mais nous avons... Moi, j'ai besoin chaque matin de me lever et dire, je vais me réjouir dans le Seigneur.
Amen.
Amen. Comme je vais dire, je vais respecter, honorer cette femme. Vous qui avez des enfants, vous voulez que vos enfants respectent leur mère? Mais respectez votre femme. Mesdames, vous voulez que vos enfants respectent leur père? Respectez votre mari. C'est assez simple. Les gens suivent notre exemple beaucoup plus qu'ils suivent nos paroles. C'est vrai ou c'est pas vrai?
Ah oui.
Moi, je peux prêcher n'importe quoi ici. Mais si j'aime pas Laura?
Tout le monde va flairer ça, n'est-ce pas?
Non, je pensais d'y aller à autre chose.
C'est tout.
Nous avons quelque chose d'extraordinaire. Dieu nous a donné une vie. Amen. Et cette vie, il veut que nous partageons avec les gens autour de nous. Il veut que nous partageons la joie de la vie. Il veut que nous vivons en paix.
Amen.
Amen. Amen. Mais c'est des décisions qu'on a besoin de prendre. Laura et moi, depuis... je vais vous dire. Ça revient. Quand nous étions jeunes fiancés, on a demandé quel est notre ministère. On était à l'époque dans le mouvement charismatique où tout le monde demandait quel était leur ministère. Et le problème que les gens croyaient entendre de Dieu, qu'il était capable de faire quelque chose qui les empêchait de faire tout le reste. Donc, quand nous sommes mis à prier le Seigneur, il dit, qu'est-ce que tu nous as appelé à faire? Il nous a donné un verset. C'est en Romains, chapitre 12 et verset 6.
Ouais.
Non, verset 8. Romains 12, verset 8. Et c'est génial. Merci ceux qui traduisent en anglais, en portugais. C'est génial. Un Italien qui traduit en portugais pour sa femme. Ça, c'est l'amour.
Amen.
Quel est votre appel? On a demandé au Seigneur. Et vous savez ce qu'il a dit? Deuxième partie, il dit, et celui qui exhorte à l'exhortation. En anglais, il dit, à celui qui encourage à l'encouragement. Et on a entendu ça tellement clairement dans notre esprit que Dieu nous a appelés à encourager les gens. Et vous savez, peu importe, j'ai reçu l'appel de pasteur.
Des années après,
oui. Donc, c'était en novembre, décembre, quand Dieu nous a dit que celui qui encourage, encourage.
En décembre, 80.
80. Et j'ai reçu l'appel de pasteur en janvier 84. Mais en tant que pasteur, je suis appelé à faire quoi? Encourager. Nous avons reçu l'appel de voyager, oui. Donc, des années plus tard, et Dieu a dit, qu'est-ce que vous faites? On encourage. On encourage les gens qui ne connaissent pas Jésus d'accepter Jésus. On encourage les gens qui connaissent Jésus de recevoir le baptême du Saint-Esprit. On encourage les malades à recevoir leur guérison de vie. On encourage les chrétiens à aller à l'avant avec le Seigneur.
En réalité, on a reçu l'appel de voyager avant qu'on ait reçu votre pasteur. Parce que le premier an et demi de notre mariage, on a voyagé. Le plus longtemps qu'on était quelque part, c'était 3 semaines. Alors, moi, je n'avais aucune envie d'avoir une maison. Et quand Dieu nous a dit d'aller à l'école biblique, j'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire dans le même endroit pendant presque deux ans? Ça va être atroce.
Mm-hmm.
Pour notre liste de mariage, on a donné un bout de papier qui dit, on ne veut aucun cadeau de mariage parce que Dieu dit, il ne faut pas mettre ou les rouilles ou les petites mites pour le manger et ranger. Alors, on a demandé que personne ne donne des cadeaux. Et quand il y a beaucoup de personnes qui sont à votre mariage, ça fait une grande différence. Mais on ne voulait pas nous accabler de choses. Aujourd'hui, quand tu vas à notre maison, il faut que Dieu m'aide pour débarrasser. On a trop de choses. Mais quand tu vis dans le même endroit, en octobre, ça va faire 24 ans qu'on habite dans le même bâtiment. Je peux t'assumer, tu accumules. Hallelujah, hallelujah.
Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Ça marche bien pour nous. Et on veut que ça marche bien pour vous.
Mm-hmm.
Avant qu'on était mariés, écoutez bien, ça marchait bien. Parce qu'on avait mis notre main dans la main du Seigneur.
Amen.
Oui. Encore, on a besoin de Dieu. On a fait donc pour notre 24 ans, 27 ans du mariage. Vous savez ce qu'on a fait pour fêter ça? On a prêché aux jeunes, oui, à une église de jeunes en Suisse. Et on ne peut pas imaginer faire quelque chose de meilleur.
Amen.
Vous êtes fou? Non, on n'est pas fou. Le lendemain, on a flâné dans les rues de Bienne, si vous savez, connaissez Bienne. C'était super au soleil. On se cachait un petit peu parce que ça tapait un peu fort. Mais pour notre anniversaire, on a prêché. On dit, on peut pas faire mieux que cela. Amen. Mais nous avons besoin de dire aux jeunes régulièrement, si tu attends le mariage pour devenir équilibré, vous allez seulement amener votre déséquilibre dans une vie de couple. Si vous attendez votre mari ou votre femme d'être votre sauveur, vous allez être vraiment, vraiment, qu'est-ce que c'est là? Ouais?
Un boulet avec un chêne.
Vous allez être découragé parce que c'est pas ça. Il y a un seul Jésus, un seul sauveur. Et nous avons besoin de régler ces choses avant le mariage. Amen? Vous m'entendez? Amen? Et donc, je sais qu'il y a des jeunes hommes là qui cherchent une femme pour faire la cuisine, pour nettoyer la maison, n'est-ce pas? Pour le garder chaud au lit. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Mais je veux dire, ce n'est pas ce qu'elle va vous apporter qui est important. Qu'est-ce que vous allez l'apporter?
J'espère un gros chèque de salaire.
C'est, C'est,
on peur a... de penser tout ce que tu gagnes. Ça fait notre devoir, n'est-ce pas, mesdames? On sait bien de penser.
Ce n'est pas ce que l'autre va me donner, c'est ce que je peux lui donner. Donc, moi, je dis, mettez votre main fermement dans la main de Dieu. Prenez la décision. Peu importe ce que les autres feront, je marche avec Dieu. Écoutez-moi bien. Les choses vont arriver qui vont vous secouer. Et nous avons à ce moment l'opportunité de voir si nous avons vraiment mis notre confiance dans le Seigneur. Amen. Mais si nous gardons notre main dans la main du Seigneur, comprenez-ci, il ne va jamais enlever sa main. C'est nous qui enlèvent la main. C'est nous qui lui tendons le dos. Moi, je dis, ne lui tendons jamais le dos. Ne vous fâchez jamais avec lui. Gardez votre confiance dans le Seigneur et je vous promets, selon la parole de Dieu et notre témoignage, deux choses. La parole de Dieu nous promet que Dieu est fidèle à sa parole. Et notre témoignage de toutes ces années, en marchant avec Dieu, en marchant ensemble dans notre vie de couple, Dieu nous tient. Amen. Et il nous bénit pour qu'on puisse être une bénédiction. Écoutez-moi bien. Dieu désire vous bénir. Pourquoi? Parce que vous êtes son enfant. Pourquoi? Parce qu'il veut que vous soyez une source de bénédiction. Amen.
Amen.
C'est ce que nous avons découvert. La volonté de Dieu pour nous. Les projets que Dieu a formés sur nous sont meilleurs que les projets que nous avons formés sur nous-mêmes. Amen. Je vais vous raconter, après on va terminer. Quand Dieu m'a donné un appel pour la France, j'ai décidé comme ceci. Je vais aller me trouver un travail dans une usine. Et je vais travailler dans une usine et apprendre le français. Et peut-être d'ici 5 ans, je vais marier avec une Française. C'est ça que j'ai pensé. Et après que j'ai appris le français, je vais commencer à servir le Seigneur. Et vous savez ce que Dieu a dit? Il dit, tu te maries avec cette petite Américaine. Et tu pars aux États-Unis. Et tu fais 2 ans d'école. Il faut dire, à notre mariage, ouais, nous avons déclaré à tout le monde qu'on partait en France, ouais, donc pour notre lune de miel, mais pour vivre. Et après, on est parti aux États-Unis pendant 3 ans. Tout le monde nous a mis en question. Mais Dieu avait un plan. Parce que, tu sais, l'Angleterre, la France, ça fait quoi? 30 kilomètres. C'est un petit détour, donc 8 kilomètres dans l'autre direction. Aller et 8 kilomètres venir.
8 000.
Ah, 8 000. Ah oui, 8 000 kilomètres aux États-Unis, 8 000. Mais Dieu avait un plan qui dépassait le nôtre. On pensait on était prêt. Dieu a dit, tu n'es pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Prêt. Et qu'est-ce qui se passe quand nous sommes venus en France? On était capables de faire ce que Dieu nous a appelé faire. On avait reçu encore... Des détails, quoi faire.
Parce que la préparation est une démonstration de votre foi.
Répète.
La préparation est une démonstration de votre foi. Et nous avons besoin de nous préparer pour aller jusqu'au bout où Dieu a voulu qu'on soit. Et mes amis, on ne peut pas négliger ce temps de préparation. C'est vital.
Donc pendant la préparation, on ne fait rien. On apprend.
Non. On fait toutes les choses... qui sont sur nous-mêmes, qui sont dans notre capacité à faire.
On est appelés disciples de la Seigneur, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des disciples ici? Est-ce que vous êtes disciples?
Amen.
Vous savez, on n'est pas des disciples grecs qui s'assoient et qui écoutent. On est disciples hébreux. Oui?
Les gnostiques, ils avaient une connaissance intellectuelle de choses, mais ils ne mettaient pas en pratique. Mais un hébreu, disciple, ils se mettaient à côté et ils faisaient ensemble avec. Et c'est ce que nous avons fait. Quand nous étions à l'école biblique, c'est 35 heures, ce n'était pas du tout le jeu. Tu sais, c'était plutôt 60 heures par semaine qu'on travaille. 60 à 70 quand on dirigeait le master en classe. Et en plus, on était dans l'église. On faisait les conseils après l'église. On avait un groupe de maison. On travaillait à fond la caisse. On faisait 40 km par jour pour aller à l'école biblique au commencement. Sur un tandem, on n'avait pas une voiture la première année. Ensuite, on a déménagé et c'était que environ 20...
16 par jour.
16 kilomètres, c'était beaucoup plus vite. Mais je vous assure, mes amis, on a fait l'effort parce qu'on avait en tête toujours la France. On a gardé nos visions pour venir en France. On ne savait pas qu'on serait pasteur au début. Mm-hmm. On ne savait pas qu'on serait à Nice. Je détestais la ville de Nice quand on est passé par ici. Quand on a passé de Cap-Antibes d'aller à Monaco, j'en ai dit, oh, ça c'est Nice. Je dis, oh, roulons, ne rate même pas. Je n'aimais pas le soleil. J'aime toujours pas le soleil. J'apprécie la luminosité, mais pas le soleil direct. Vous pouvez voir, cette année, je suis bronzée. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Mais
ça, c'est Laura Bronzé.
Ça, c'est Laura Bronzé. Je suis fière de mon bronzage cette année. Oh là là. Ouais. Mais c'est Dieu qui nous a parlé. Et c'est Dieu qui m'a dit, Nice.
Mm-hmm. Il n'a pas dit à moi, il a dit à Laura d'abord.
Et il a dit à John, d'être pasteur.
Mm-hmm.
Moi, j'avais deux, trois choses. Seigneur, je fais tout ce que tu veux, mais je ne veux jamais être missionnaire. Il apporte des drôles de chapeaux. Et John a une de ses chapeaux, c'est trop. Et je lui ai acheté en plus. Deuxième chose, je ne voulais jamais être femme de pasteur. Parce que tout ce que l'Église exige, il faut que la femme de pasteur fait, oui, oui. Et troisième chose, aller en Afrique. Oh là là, ils sont des cannibales là-bas. On mange des rats. Oh, ils sont bizarres, tu vois. Oh, Seigneur, je fais tout ce que tu veux, sauf ces trois choses. Alors, quand je me suis mariée, fiancée avec John, je savais que je serais missionnaire. D'accord? Façon. Pasteur, il m'a donné 2 ans de grâce avant qu'il m'a donné la sentence.
3 ans.
3 ans, d'accord. Et c'était en 90,
11,
91 qu'on est allé en Afrique. Et alors, quand on est allé en Afrique, oh, heureusement, Dieu m'a parlé pendant le groupe avec les jeunes, pendant qu'on priait. Et Dieu m'a montré, mais seulement le derrière de vos têtes, tous ces noix, tu vois. Mais derrière la tête, toutes les têtes sont pareilles, tu vois. Je ne voyais pas le visage. Et je voyais cette foule de personnes. Et moi et John, on était prêchés ensemble sur le stade. Et la nuit, je me suis couchée. On n'avait pas le temps de dire à John le rêve. Le lendemain, je me suis vue dans le rêve encore, en train de prêcher, je rêvais, je dis à John, je dis, John, je me suis vue, nous étions dans un nouvel endroit en train de prêcher, en foule de personnes, et l'Esprit de Dieu était tangible dans notre chambre à coucher. Et quelques minutes plus tard, le téléphone sonne, le pasteur téléphone, il dit, ah, oh, je veux vous voir. Alors, je dis, d'accord, après le culte, on va manger ensemble. Je raccroche, le Seigneur dit, tu vas aller au Gabon et tu vas prêcher. J'arrive ici à 9h15 du matin, et John dit, ah, oh, le pasteur vient de nous inviter pour aller à Libreville pour prêcher. Je dis, d'accord. Il dit, quoi? Je dis, oui, je viens. Il dit, quoi? Après toutes ces années, chaque fois qu'il parlait d'Afrique, je dis, Dieu t'a parlé, tu vas en Afrique. Je reste, je vais sur l'église. Va avec ma bénédiction. On est allé. Oh là là. On monte à Paris, l'avion a été annulé, ils ont mis 3 avions ensemble. On avait un albino. J'ai jamais vu un noir albino dans ma vie. Oh là là! J'ai cru que c'était Frankenstein, tu vois. Sophie parlait, tu vois. Il était grand. J'avais un autre qui m'a injuré en anglais. Et il avait 2 autres qui voulaient notre siège. Et moi, j'avais le. Et John a dit. Et les gens disent, ça vous embête si on prend vos sièges? Et heureusement, John était là. Moi, j'étais effrayée par l'albino. Et l'autre gens qui m'insultait. Et John dit, c'est nos places dégagées. Alors, tu vois, on a assis.
Non, il
venait. J'ai mis mes caches.
Non, c'était un jeune couple. Oh. Ils venaient de se rencontrer. Ils disent, ça va si on s'assoit ensemble? Je dis, oui, mais pas ici. Ça, c'est nos places.
Et alors, oh, ensuite, on arrive. J'avais mes chances. On mesure mes oreilles autour de mon cou. Je dis, oh Seigneur, et j'ai laissé mes enfants pour Noël, pour partir en Afrique. Je descends d'avion. Ils ont le machine gun qui est là.
Mitraillette.
Et il dit, vite dans votre carte d'embarquement, parce que c'est illégal que vous soyez ici en train de faire une réunion d'évangélisation. Alors vite, on change nos cartes. Aïe, aïe, aïe. Mais c'était la gloire de Dieu quand nous étions en train de prêcher devant entre 3 et 5 000 personnes. Qui buvait vos paroles. Oh là là, c'est la première fois dans ma vie que quelqu'un m'a dit maman et qu'il avait la moitié plus âgé que moi. Tu sais, maman, bonjour maman, bonjour. Alors, je dis, mais regarde-moi dans les yeux, moi, tu vois. Je ne comprenais pas, tu. On a mangé même de crocodile et jamais. C'était moi.
C'était crocovin.
C'était bon.
Je pense qu'on va en mettre. Prends le frein à main, là. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire?
Quand tu sers Dieu, on s'amuse ensemble.
Quand on sert Dieu, on peut.
Oui.
On peut. On peut aimer la vie. On peut vivre la vie. On peut être une source de bénédiction. Et vous dites, mais c'est super, vous êtes génial. On a entendu
mais
ça.
C'est juste, on aime.
Mais c'est juste. C'est
on
juste.
Aime.
C'est vrai. Mais pourquoi Dieu nous a mis ici devant vous? Pourquoi Dieu met des exemples dans notre vie pour dire que si c'est possible pour eux, c'est possible pour vous aussi? Vous m'entendez?
Amen.
Ce n'est
Amen.
Pas parce qu'on ne veut pas quand vous parlez de l'Église, ne parle pas de vos pasteurs, parle de ce que Jésus est en train de faire dans votre vie. Amen.
Amen.
Parce qu'on sait que quand les gens viennent dans l'église, on va les accueillir. Cette église est géniale pour accueillir
ça,
les gens.
Juste, oui.
On va les aimer. Mais l'évangélisation, c'est pas de parler de notre église, c'est pas de parler de nos pasteurs, c'est de parler de ce que Jésus est en train de faire dans nos vies. Et ce que Jésus a fait pour nous, il veut faire pour vous. Ça va être différent. Parce que vous êtes différents. Mais ça va être aussi, joyeuse, aussi.
Pétillante!
Pétillante. Ça, c'est un bon
mot. C'est un bon mot.
C'est un bon, oui. Bien, levez-vous en prière. Can you push that carpet? On va prier. Tout ce que vous faites,
faites-le
de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes.
Amen.
Amen. Amen. Hallelujah. Seigneur, te bénissons. Quelle joie de pouvoir partager ces choses avec nos amis. Merci Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que chaque vie ici compte pour l'éternité, que chaque vie ici est une source de bénédiction dans ce monde. Père, nous savons que tu as entouré nos frères et sœurs, des hommes et des femmes qui ont besoin d'eux, qui ont besoin d'entendre le témoignage, qui ont besoin de recevoir leurs prières. Seigneur, je sais que certains ici sont encore en train de prendre la décision de vraiment te donner la seigneurie de leur vie, vraiment de mettre leurs mains dans ta main. Et Seigneur, j'espère que ce que nous avons dit ce matin les encourage. Père, c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons les encourager à avancer dans le Seigneur, d'enlever tout ce qui les retient. Père, nous savons très bien que ce que le monde offre ne va jamais nous satisfaire, mais ce que tu nous offres va nous satisfaire dans le plus fond de notre être. Oh, merci Seigneur. Merci que nous puissions avancer en toi. Oh, merci Jésus.
Seigneur, nous te remercions pour chaque être qui est en train d'écouter et voir cette DVD. Et merci, Seigneur, nous libérons la bénédiction de Dieu de couler dans leur vie, de le sommet de tête jusqu'au plan de pied. Et merci, Seigneur, oh, pour l'huile de grâce. Oh, c'est l'huile qui descend de le trône de Dieu, oh, qui va leur donner un rafraîchissement dans leurs eaux, afin qu'ils puissent obtenir et atteindre le grand destin que tu as formé à leur égard. Merci, Seigneur, ils vont se voir autrement. Ils vont avoir les yeux de la foi pour voir ce qu'ils peuvent faire ensemble avec toi, qui vont laisser rien leur retenir hors de ce grand mandat que tu as formé à leur égard. Oh, nous te remercions, Seigneur, et nous te donnons tout le gloire pour toutes les personnes qui vont te toucher grâce à leur vie et à leur comportement. Merci, Seigneur, pour les paroles assaisonnées de sel qui jaillit de leur bouche. Et merci, Seigneur, c'est le temps de récolte. C'est le temps de récolte, de voir des hommes et des femmes rentrer dans le royaume de Dieu, d'être libérés de l'esclavage du péché pour l'éternité. Mm-hmm. Oh, nous te remercions, oui. Seigneur. Ça, c'est ce que nous visons en tant qu'église locale. Mm-hmm. Nous visons que le nom de Jésus soit élevé en dignité. Mm-hmm. Au nom de Jésus. Mm-hmm. Amen.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissance.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.